Amen. Vous allez bien? Vous avez bravé le froid, les bouchons, pas la tempête, heureusement il n'y en a pas, parce que le but c'est de se retrouver ensemble devant le Seigneur. Et ce chant dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus ». Dieu sait ce que nous avons véritablement besoin, n'est-ce pas? Dans la méditation de ce soir, j'aimerais vous encourager à lire ensemble ce texte de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 au verset 12. Matthieu, chapitre 5, les versets 1 au verset 12. Et il nous amène, c'est le Seigneur qui nous amène avec lui, à découvrir la manière où Dieu voit les choses, qui est, je dirais très souvent, le plus souvent, loin d'être notre manière à nous de voir les choses. Et Jésus dira, voyons la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Jésus fait le choix de partager la parole de Dieu d'une manière particulière qui nous dépasse. Je dirais, pas seulement contre-courant par rapport à ce que les hommes de son temps pouvaient annoncer, la manière qui était la leur, mais surtout en donnant des principes spirituels qui parfois peuvent bouleverser notre raisonnement. La première chose à retenir dans ce texte, c'est que Jésus, voyant la foule, monte sur la montagne. Il ne s'installe pas là où est la foule, mais Jésus les amène avec lui. Il les amène un peu plus loin, il les amène à monter sur la montagne. Si nous faisons la lecture des textes qui précèdent celui-ci, il nous dit que cette foule était composée de beaucoup de malades. Toutes des personnes qui étaient en difficulté, mais qui avaient entendu que Jésus était là. Et ils avaient besoin de Jésus. Et certes, pour quelqu'un qui est déjà malade, ce n'est pas évident de se déplacer. Mais là, Jésus leur demande un effort supplémentaire. Jésus n'est pas loin de la souffrance des gens, mais le Seigneur sait jusqu'à où nous devons aller pour finalement être réceptifs. Certes, il y a un effort que Dieu nous demande de faire dans notre vie personnelle. Parce qu'on peut facilement s'installer dans notre pauvreté, dans nos difficultés, mais ne plus être réceptif à ce que Dieu a à nous dire. Peut-être qu'on veut seulement que Dieu nous guérisse. Mais une guérison, certes, ça change. Mais ça ne règle pas tout. Ces hommes, ces femmes avaient besoin d'entendre ce que Dieu avait à leur dire. La guérison était nécessaire et Jésus était là pour les guérir. Mais s'ils avaient reçu que la guérison se recevait dans la parole de Dieu, la guérison n'aurait pas atteint leur âme. Et il en est des mêmes pour nous qui encore aujourd'hui, nous avons pas seulement besoin que Dieu guérisse, que Dieu pourvoie nos besoins. Et nous avons besoin davantage que le Seigneur change nos cœurs et nos raisonnements. Et oui, le Seigneur vient à notre rencontre. Mais le Seigneur nous demande aussi de le suivre. Jésus nous rencontre sur le chemin là où nous sommes, à un moment bien particulier de notre vie, mais le Seigneur nous dit maintenant, suis-moi. Oui, mais Seigneur, moi j'aimerais bien rester dans la vallée. Non, suis-moi sur la montagne. Vous savez, la vallée, c'est souvent synonyme d'endroit où il y a des combats. Alors que Jésus veut nous amener un peu plus haut, veut nous amener à prendre un peu de la hauteur et voir les choses autrement. Et le texte nous dit que Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne et il s'assit. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Marcher derrière Jésus, nous approcher de lui, écouter sa parole. Marcher derrière Jésus, c'est dire, Seigneur, je ne sais pas jusqu'à où tu vas nous emmener. Vous êtes venu ce soir dans ce lieu, mais vous ne savez pas jusqu'à où le Seigneur veut vous amener ce soir. Vous ne connaissez pas le texte. Avant d'arriver dans ce lieu, vous ne saviez pas quel aurait été le texte qu'on aurait partagé ce soir ensemble. Il est question de vous approcher de Jésus, non pas de moi. Moi, je n'ai rien à pouvoir vous apporter. Mais il est question aussi d'écouter sa parole, pas seulement pour être de ceux qui écoutent, mais de ceux qui mettent en pratique. Et là, le message de la parole de Dieu nous montre aussi que le Seigneur sait comment nous amener derrière lui, parce que quand on suit le Seigneur, en réalité, on s'éloigne des mauvais chemins qu'on a certainement déjà parcourus et bien des fois. La différence entre un chemin nouveau et un vieux chemin, c'est que le chemin nouveau, en effet, personne n'est jamais passé par là. N'est-ce pas? Il faut faire ce chemin, il faut le créer. Le premier qui met les pas, c'est lui qui trace le chemin. Et on est là et on le suit. Mais le chemin déjà connu, le chemin qui est traversé par bien des personnes, c'est devenu de la terre battue. Il n'y a plus rien qui pousse. Et certes, il y a des choses dans notre vie qui sont devenues un peu comme la terre battue dure, où il y a beaucoup de poussière, il n'y a plus rien qui pousse. Et le Seigneur nous dit, viens, suis-moi, j'ai un autre chemin pour toi, j'ai un autre terrain sur lequel tu vas devoir mettre tes pieds. Oui, mais Seigneur, je ne vois pas la direction, je ne connais pas. Justement pour ça, tu as besoin de me suivre. Et c'est bien quand c'est le Seigneur qui nous conduit, n'est-ce pas? Comment Jésus nous voit? 1 Pierre chapitre 2, versets 21-22, il dit, c'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. C'est beau parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne suivons pas n'importe qui, nous suivons quelqu'un, premièrement, qui n'est pas là pour nous voler quelque chose, qui n'est pas là pour nous prendre quelque chose. C'est quelqu'un qui va nous faire un nouveau chemin et qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de fraude dans sa bouche. C'est important de savoir à qui nous avons affaire. Les promesses du monde sont des promesses qui malheureusement laissent un goût amer. On a certainement suivi des chemins, vous savez, quand on arrive dans un lieu nouveau, on demande, vous savez, où comment y arriver? Maintenant, on a des GPS, n'est-ce pas? C'est pratique. Quand ça marche. Mais imaginez que d'un coup, vous n'avez plus de GPS. Vous faites comment pour trouver votre chemin? Est-ce que tu as une carte dans ta voiture? Voilà. Donc, tu es obligé. Non, mais tu n'as plus de téléphone. Tu n'as plus de GPS. L'informatique a dit stop. Tu n'as pas de carte dans ta voiture. Tu vas faire comment pour trouver ton chemin? Tu vas commencer à demander à la première personne. Est-ce que vous savez? Alors si vous rencontrez quelqu'un de vrai, de juste, d'intègre, il va vous donner la bonne direction. Mais si vous trouvez quelqu'un qui veut en effet vous faire perdre du temps, il peut vous envoyer quelques kilomètres plus loin. Et une fois qu'il vous a donné les mauvaises indications et que vous prenez la route tranquille et heureux d'avoir trouvé quelqu'un, lui, il rigole. et se dit, tiens, il va la trouver, la route. Et c'est souvent ce que le monde, ce que Satan fait, nous faire dévier de la bonne trajectoire. Ce n'est pas le monde qui nous donnera la direction pour aller à Dieu, mais c'est Jésus-Christ. Et il est important pour nous de savoir à qui nous avons affaire, alors c'est important pour nous d'avoir quelqu'un qui ne nous ment pas et qui n'a pas commis de péché, parce qu'il ne nous amènera pas dans un mauvais chemin. En lisant ce texte, on voit que Jésus, voyant la foule, je me suis posé la question, est-ce que, et je vous la repose à vous, vous est-il déjà arrivé de vous demander comment Dieu vous voit? Comment est-ce que Dieu me voit? Quel est le regard que Christ a sur ma vie? Vous savez, on a toujours tendance à vouloir montrer la meilleure des images. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez toujours le souhait qu'il puisse voir quelqu'un d'agréable, quelqu'un d'appréciable, quelqu'un de bien habillé, qui sent bon. Non? Jovial. Parce que vous dites, s'il rencontre quelqu'un qui est triste, qui est malheureux, qui fait la tête, ben il n'a plus envie de me croiser. Mais quelle est la réalité du cœur? Comment le Seigneur me voit? Puisqu'à lui, je ne peux rien cacher. Comment est-ce que le Seigneur voit les hommes, les femmes? Matthieu chapitre 9, versets 35 à 36, c'est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait l'évangile du royaume et guérissait tout, de toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion car elles avaient été laissées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Comment Dieu voit les hommes? Comme des brebis perdues. Vous avez vu déjà une brebis qui est perdue? Ça vous est arrivé de voir une brebis perdue? Qu'est-ce que vous avez fait en voyant la brebis perdue? C'est bien. Mis dans la voiture et ramené où? À la maison? Au congélo? À la broche, aux paysans. Et ce que Jésus dit là, c'est que malheureusement, le paysan qui a perdu la brebis ne s'est pas donné la peine d'aller la chercher. Et heureusement que cette brebis perdue, cette foule perdue, a pu finalement voir Jésus parce que Jésus est le bon berger. Et le regard de Christ sur notre vie, c'est qu'il ne veut pas nous laisser perdus, il ne veut pas nous laisser abandonnés, il ne veut pas que n'importe qui, même si intentionné d'une manière favorable, puisse nous charger dans son véhicule. Déjà, il faut le faire. Il faut y arriver à mettre la brebis dans la voiture. N'est-ce pas? Tout dépend de la voiture. Si c'est une voiture neuve, on va se dire, ah non, je ne vais pas mettre la brebis. Mais la brebis, elle ne va pas suivre la voiture. Parce que la brebis, réellement, elle attend de réentendre la voix de son berger. Là, elle est rassurée. Est-ce que nous attendons et est-ce que nous désirons entendre la voix du Seigneur? Vraiment? Est-ce qu'on est prêt à entendre ce que le Seigneur a à nous dire? Vraiment? Parce que ce que le Seigneur pourrait nous dire, ce que le Seigneur a envie de nous dire, peut-être ça ne nous plaira pas trop. On pourrait peut-être dire, Seigneur, mais ce n'est pas ça que je m'attendais que tu me dises ce soir. J'aurais aimé, Seigneur, que tu me brosses dans le sens du poil. Moi, brebis un peu perdue, ça me ferait du bien. Seigneur, j'aimerais bien avoir une couverture bien luisante, une brebis de compétition. Parce que on aimerait donner une image autre. Et alors Jésus va nous amener à la réalité. Et dans ce texte, on voit que Jésus annonce quelque chose. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En effet, on pourrait traduire cela pour dire à vous qui aimeriez simplement comprendre ce que Dieu dit. Y a-t-on de nous pauvres mortels ? Approchez-vous simplement. Venez avec simplicité de cœur, car le royaume des cieux est à vous. Ah, mais Seigneur, moi je pensais que... Non, non, c'est pas comme ça. Viens simplement au Seigneur. Alors, chose étonnante dans ce texte, je pense qu'on est tous un peu étonnés par les paroles de Jésus, « Heureux les pauvres ». Si vous rencontrez demain quelqu'un qui est pauvre, qui tend la main pour recevoir une petite pièce, est-ce que vous avez le courage de lui dire « T'es heureux ?» Non ? Est-ce que vous seriez heureux à sa place ? Pourtant, Jésus dit « heureux ». Il va continuer à dire « heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Oui, mais Seigneur, mon besoin, c'est là, maintenant. Comment je peux être heureux alors que je suis en train de pleurer ? Certes, ça existe, ceux qui pleurent de joie. Mais là, si on pleure de joie, on n'a pas besoin de consolation. C'est que cette consolation a déjà trouvé place dans nos cœurs, n'est-ce pas ? Là, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance. Et encore une fois, le Seigneur, il dit, pour ceux qui sont dans la souffrance, approchez-vous de Jésus, il essuiera vos larmes. C'est ainsi que Jésus parle, c'est ainsi que le Seigneur nous voit vraiment. Au-delà de notre étiquette, au-delà de ce que nous pouvons donner comme image au monde. Et Jésus continue, à vous, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Même si vous avez le sentiment que tout le monde profite de vous, soyez doux. Compliquez ce que le Seigneur demande. À vous qui êtes victimes et qui réclamez justice, Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». On entend parler beaucoup de justice, mais laquelle ? Comment ferions-nous justice ? Il vous est déjà arrivé d'entendre parler d'un procès et face au jugement de vous dire « Ah, mais ce n'est pas suffisant. Moi, j'aurais mis un peu plus. » Ça vous est arrivé, oui ou non ? Hein ? Ah, c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas équitable. La personne, en effet, elle a souffert, voire elle n'est plus là. Et là, pour quelques années, le problème a été réglé. Ce n'est pas normal. On peut faire du mal, et en effet, on ne payera jamais véritablement la note. Mais si on se mettait à la place qui devrait être la nôtre, à cause de nos péchés, de nos manquements, comment et de quelle manière on jugerait les choses ? C'est pas ma faute. Il y a une erreur. Les autres ont fait pire, pourquoi moi je devrais être condamné à mort ? Puisque la parole de Dieu dit « car tous ont péché » et sont privés de la gloire. Donc ça veut dire que c'est la mort éternelle. Mais Seigneur, j'ai juste volé un stylo. En plus, c'était le stylo du trésorier. C'est pas trop grave. Il a trésorerie, il peut en acheter un, lui. Non ? Et Seigneur te dit non. Seigneur, j'ai pas dit un gros mensonge, c'était un tout petit. C'était pour faire plaisir, Seigneur. Le Seigneur te dit non, même ça, c'est pas bon. Et Seigneur, tu ne peux pas me condamner de la même manière que tu condamnes celui qui a tué quelqu'un. Lui, c'est grave. Mais aux yeux de Dieu, le péché est péché. Et tout péché entraîne des conséquences. Alors quand Jésus parle des béatitudes, je voudrais vous dire, est-ce que vous vivez cet état de béatitude ? Puisque le Seigneur fait une liste de ceux qui sont, à qui il dit « heureux ». Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Êtes-vous déjà rentré dans cet état de béatitude ? Ce soir, je sais que je ne prêche pas à des personnes nouvelles. Je prêche à des hommes et des femmes qui ont déjà fait le pas de donner leur cœur au Seigneur. Donc, vous êtes heureux. Je l'espère. Je ne peux pas juger, ce n'est pas à moi de juger. En plus, le masque nous couvre bien. Derrière le masque, on peut dire, oui, si tu savais combien je suis heureux, moi, de souffrir. Seigneur ne nous demande pas de souffrir juste pour souffrir. Ce n'est pas à cela qu'il nous invite. Mais le Seigneur nous dit, quelle qu'il soit la souffrance qui est la tienne, sois heureux parce que j'ai une solution pour toi. Quelle qu'il soit la souffrance qui touche à ta vie, ne sois pas dans la tristesse, mais dis-toi que Dieu a un projet et il a une manière de te sortir de cette situation. Ça va au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Ça va au-delà de ce que tu pourrais même rêver. Il n'est pas question pour nous de croire que nos efforts personnels et nos œuvres sont le moyen de sauver notre âme. On pourrait se dire, Seigneur, mais tu vois, j'ai souffert. Je suis quelqu'un qui a pleuré beaucoup. J'ai été toujours très doux. J'ai connu la faim et la soif de la justice. Je fais miséricorde, donc avec tout ça, je mérite les cieux. On pourrait avoir le sentiment qu'après ça, il n'y a plus rien qui puisse nous empêcher, en réalité, de voir Dieu. Mais Jésus ne nous laisse pas dans ce doute et ne nous laisse pas dans cette confusion, puisqu'il nous dit que voir Dieu, ça veut dire quand même qu'il y a des choses qui ont dû prendre une certaine place dans notre cœur. Et ces choses vont au-delà de nos souffrances et nos problèmes. Alors je disais dès le départ, Jésus était là pour guérir les malades et il est là encore aujourd'hui pour cela. Mais il ne faudrait pas que le seul objectif dans notre vie soit de suivre Jésus pour recevoir quelque chose en oubliant de lui donner l'essentiel, notre cœur, notre vie. Parce qu'autrement, oui, certes, on est venu malheureux. On sera guéri, mais on sera des guéris malheureux. Parce qu'on n'a pas reçu l'essentiel. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus à Jésus et Jésus les a guéris. Mais après, il leur a donné un conseil. Va et ne pêche plus. À quelqu'un, même, il lui dira, va et fais attention à ta manière de parler. Parce qu'il pourrait t'arriver pire. Donc, on peut avoir une guérison physique, on peut avoir une action sur notre corps, mais il faut que l'action de Dieu soit aussi dans notre cœur. D'ailleurs, on disait tout à l'heure comment Jésus nous voit. J'aimerais reprendre ce texte de 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 25, et faire la lecture un peu plus loin. Il dit, le texte, c'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions par la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Est-ce que votre âme est bien gardée par le Seigneur ? Oui ? Je dirais que c'est une double raison pour être heureux. N'est-ce pas ? Je suis curieux. Et parfois, cette curiosité m'amène à me poser des questions un peu étranges. Savez-vous quel est le poids de l'âme ? Quel est le poids de votre âme ? Tout dépend ce qu'il y a dedans. Parce que je me suis dit, pourquoi Dieu s'intéresse tellement à nous ? Il semblerait, les scientifiques le disent, moi je ne peux pas vous le dire pour l'instant, un jour peut-être, vous allez comprendre tout de suite, c'est que quand quelqu'un meurt et revient après X temps, ce qui reste devrait être autour des 3 kilos, 4 kilos, tout ce qui reste. La poussière qui reste. Pas grand-chose, hein, c'est de la poussière. Pourquoi Dieu s'intéresse à nous ? Alors, dans la Bible, il est question que Dieu s'intéresse à notre âme, n'est-ce pas ? Alors, certains scientifiques, et je répète, ce n'est pas moi qui a pu peser, considèrent que le poids d'une âme, c'est à peu près 25 grammes. Pas grand-chose, hein ? Non ? Je ne vous demande pas ce que vous pesez aujourd'hui. On va garder ça comme un secret. Hein ? Pas de sujet qui fâche. Mais la question, c'est, est-ce que c'est une question de poids ou c'est une question de qualité de notre âme ? Quelle est l'âme qu'on veut offrir à Dieu ? Quel est le poids de notre vie vis-à-vis de Dieu ? 25 grammes, c'est pas grand-chose. Bon, les scientifiques, ils ont pu peut-être mesurer, je ne sais pas comment. Peu importe. Ce qui reste important pour nous, c'est de dire quel est le poids que nous avons spirituel devant Dieu. De quelle manière le Seigneur va pouvoir mesurer ou peser notre relation avec lui. On était des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Qui est-ce que garde votre âme ? Quel est le travail d'un gardien ? Jean, selon toi, quel est le travail d'un gardien ? De garder. Je demande à Jean, c'est un professionnel du secteur. Ça veut dire que s'il y a besoin d'un gardien, c'est parce qu'en général, il y a un voleur. Non ? C'est juste ? Il n'y a pas besoin de gardien s'il n'y a pas de voleur. Il n'y a pas besoin de gardien s'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas besoin de gardien si en réalité, rien ne peut toucher telle ou telle personne. Pourquoi avoir un gardien s'il n'y en a pas l'utilité ? Si vous êtes seul sur une île déserte, pas besoin de gardien. Non ? Alors pourquoi Jésus nous dit qu'il est le gardien de notre âme ? C'est parce que notre âme, elle intéresse quelqu'un qui voudrait en effet nous empêcher de passer notre vie éternelle avec Dieu. Et qui essaye de tout mettre en œuvre, même les pires souffrances de ce monde, pour nous empêcher de rester attachés au Seigneur. Et parfois, les circonstances que nous vivons nous amènent à prendre des décisions qui nous éloignent de Dieu. Alors, certes, c'est difficile d'être heureux quand on pleure à cause de la douleur. Je le conçois. Mais du moment que je sais que le Seigneur a une solution pour moi, c'est difficile de se sentir dans l'injustice alors que... Mais le Seigneur, là aussi, me dit, sois heureux. Parce qu'il y a une solution. Et il continue encore en nous disant quelque chose de particulier. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Waouh ! Est-ce que notre cœur est pur et rencontrer le Seigneur ce soir ? Parce que le Seigneur peut revenir ce soir, non ? Oui ou non ? Est-ce qu'on vit avec cette pensée que le Seigneur peut revenir là tout de suite ? Est-ce que mon cœur est pur ? Est-ce que je suis heureux même En est-on quelqu'un qui procure la paix, puisqu'il est question de ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Question, est-ce qu'on connaît la vraie paix? Parce qu'on ne peut pas apporter la paix si nous, on ne la connaît pas. Non? Quand on se trouve, imaginez, allez, une image. Imaginez que vous vous retrouvez devant un médecin. Laissons le médecin. Une infirmière. Elle doit vous faire une prise de sang. Elle a la main qui tremble. Elle commence à se poser la question, je vais piquer où pour faire votre prise de sang? Elle vous dit, je ne vois pas bien d'un œil. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous êtes prêt à tendre le bras, à dire, je ne sais pas, par ici, par là? Moi, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un inexpérimenté. J'étais à l'hôpital et il y a deux jeunes femmes, deux jeunes infirmières. Elle me dit, écoutez, voilà, on est là, on doit apprendre à faire des piqûres. Oui, et alors? J'ai dit, moi, c'est simple. Si au premier coup, vous piquez, vous réussissez, c'est top. Mais vous n'aurez pas une deuxième chance. Et là, en voyant la main de la jeune femme qui tremblait de plus en plus, je dis, vous vous arrêtez tout de suite, on enlève même la première possibilité. C'est normal, parce que je n'étais pas rassuré, non? Après quoi, il y a une deuxième infirmière qui est arrivée. Elle dit, monsieur, vous inquiétez pas, j'ai tant et tant d'années d'expérience, j'ai l'habitude. Soyez tranquille, elle a pris, elle a préparé, tac, elle a piqué, j'ai même pas senti l'aiguille, ni vu, ni connu. Alors je me dis, autant qu'enfant de Dieu, comment je peux communiquer la paix si je ne l'ai pas? Comment je peux amener quelqu'un à expérimenter quelque chose que moi-même, je ne vis pas? Et à quel moment véritablement la personne va pouvoir saisir que j'ai cette paix dans mon cœur, si ce n'est quand tout peut-être est dans le trouble? Alors peut-être oui que là tout prend sens dans la parole du Seigneur, heureux. Parce que le monde nous montrerait qu'il faut être malheureux parce qu'on n'a pas ce que les autres ont, mais nous on est heureux parce qu'on a l'essentiel. Et là, en réalité, je donne ce témoignage d'être quelqu'un qui est fils de Dieu. Alors il continue, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Je partageais aujourd'hui partager quelques pensées avec quelqu'un et je disais, dans la lecture d'aujourd'hui, j'avais Actes chapitre 5. Et là, il nous parle de deux disciples qui ont été amenés en prison. Et là, pendant qu'ils sont en prison, il dit la parole de Dieu que Dieu, pendant la nuit, il les fait sortir de prison et leur dit, allez dans le synagogue et prêcher l'évangile. Eux, le matin, ils partent à la synagogue et ils font ce que Dieu leur demande. C'est beau ça, hein? Et ils sont dans la synagogue en sachant que quand même, il y aura des conséquences parce que, bien, quelque part, certains, ils les ont mis en prison, ils ne devraient pas être à la synagogue. Mais Dieu les envoie pour accomplir une œuvre. Ils y vont et ils se font arrêter une deuxième fois. Et cette deuxième fois, il est question pour eux finalement d'être repris. Et il dit le texte à la fin du chapitre 5 qu'ils ont été fouettés. Mais ils sont repartis heureux d'avoir été considérés dignes, d'avoir reçu des cours pour le nom du Seigneur. Et je me suis dit en moi-même, Seigneur, ça ne doit pas être toujours facile. Ou est-ce qu'on serait prêt à accepter de prendre des coups pour toi? Est-ce qu'on repartirait heureux? Je vous pose la question. Prenez le temps d'y réfléchir. D'un premier abord, on dira « Ah non, je ne serai pas heureux. Je peux être heureux si je les ai évités, les coups. » Quelqu'un m'a dit aujourd'hui « Est-ce que tu aimes ça ?» Oui, j'aime tout sauf les coups de bâton. Non ? Mais il y a un moment où le Seigneur nous demande aussi, dans les épreuves, dans les plus difficiles, de montrer que notre joie n'est pas quelque chose de passager, mais la joie du Seigneur, c'est celle qui occupe notre cœur. Hier matin, alors qu'on était en pastoral par ordinateur, par Zoom, un frère partageait le témoignage d'un chrétien qui était touché de Parkinson. Et ce frère, il partageait ce témoignage en disant, voilà, toutes les fois que j'avais l'occasion d'aller lui rendre visite, je priais pour lui en disant, Seigneur, voilà, sois sa consolation, parce que ce n'est pas évident, non ? Sois sa consolation, sois sa force. Et il dit, cette fois-ci, le Seigneur m'a conduit à prier autrement. Et il dit, je disais, Seigneur, merci, parce que malgré la circonstance, tu es la joie qui est dans le cœur de cet homme. Seigneur, merci, parce que malgré les souffrances, c'est toi qui lui donnes le courage et la force tous les matins, Seigneur, de continuer à parler de toi. Il nous disait à la fin de ce temps de prière que je ne comprenais pas pourquoi j'avais pu oser prier comme ça. Il dit, je regardais le visage de ce frère et il était souriant, plein de joie, parce que finalement, j'avais compris ce qu'il vivait. Et le Seigneur voudrait véritablement que nous puissions vivre une dimension spirituelle différente de celle auquel nous avons l'habitude ou à laquelle nous-mêmes peut-être nous inspirons. Si je vous posais la question, qu'est-ce que vous désirez pour cette nouvelle année de la part du Seigneur? Quelle est votre réponse? Un certain nombre dirait, ah, d'être béni. Visiter du Saint-Esprit. Ne pas être malade. Bonne santé. Voilà. Merci de m'avoir aidé. Hein, de ne plus avoir autant de problèmes à trouver du travail. Toutes des choses qui sont justes. Mais si le Seigneur voulait nous amener à vivre encore plus. Mais vous savez que souvent pour vivre plus, il faut accepter d'en avoir moins. Pourquoi ? Parce que quand on en a moins, on compte plus sur lui. Qui est prêt à dire au Seigneur, je veux ? Qui est prêt à dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas te demander de me donner moins. Mais je veux te demander que, quelle qu'il soit la circonstance, la situation, Seigneur, sois ma joie. Moi, je ne vous dis pas ce soir, dites au Seigneur, ne me donne pas de bénédiction parce que ça ne serait pas normal. Mais je pense qu'il est important pour nous de dire, Seigneur, quelle qu'il soit la circonstance que je vais traverser cette année, Seigneur, remplis mon cœur de ton espérance, de ta joie, parce que je sais qu'en toute circonstance, je peux être heureux parce que Dieu a une solution pour moi. Et vous savez, l'année va être différente. On va regarder les choses différemment. N'est-ce pas ? J'aimerais terminer avec ce texte qui nous rappelle quand même que on a cette joie à voir, puisque le texte dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et ceux qui vous ont précédé. Jésus dira dans l'évangile de Marc au chapitre 8, les versets 35 à 37, « Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ? que donnerait un homme en échange de son âme. C'était quoi l'estimation du poids de l'âme? 25 grammes. C'est pas grand-chose, ça peut se perdre, 25 grammes. Non? Mais c'est la valeur de ce que Dieu nous a donné qu'il faut retenir. Non pas le poids, c'est la valeur. Alors est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je désire cette récompense parce qu'elle sera grande, grande pour moi dans le ciel, mais dès à présent, Seigneur, j'aimerais voir cette année autrement. Je ne sais pas ce qui va se produire dans les mois qui vont suivre et vous non plus. On l'a déjà dit l'année dernière, on n'aurait jamais imaginé de passer une année comme on l'a passée. C'est vrai ou pas? Et cette année, on espère tous véritablement de sortir de toute cette crise et tout, mais pour l'instant, on n'a aucune certitude. On est d'accord? Par contre, moi, je me dis que je n'ai pas envie, personnellement, de passer 12 mois à me plaindre de ce que je n'ai pas. Parce que des gens qui se plaignent, il y en a plein, et des fois, ça fait même des manifs. Et moi, je me dis, Seigneur, donne-moi pendant ces 12 mois d'expérimenter encore plus la raison d'être heureux, parce que tu es avec moi. Amen. Et vous savez, même si demain on se retrouve face à quelqu'un qui est dans l'épreuve et dans la difficulté, on peut lui transmettre cette joie. D'ailleurs, vous savez, il y a deux disciples qui se sont retrouvés alors qu'ils allaient à la synagogue, c'était l'heure de la prière, face à un homme qui demandait l'aumône. Non ? Ils vont lui dire à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, amen. Alors je voudrais vous encourager à avoir cette paix, à avoir cette joie, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas la transmettre. Mais si vous l'avez en vous, le Seigneur peut se servir de vous pour toucher d'autres cœurs. On va fermer nos yeux et on va terminer. Seigneur, tu nous appelles à être des messagers de ta parole. Et comme nous l'avons dit, ta parole, parfois, elle est contre-courant. Et bien des fois, elle est contre-courant. Seigneur, alors que le monde voit des raisons de se plaindre, nous, nous voulons voir des raisons de nous réjouir parce que nous nous attendons à toi. Et dans cette nouvelle année, Seigneur, si nous voulons être des témoins efficaces de ta parole, c'est cette joie qui vient du ciel que nous pouvons et nous devons transmettre et apporter. Seigneur, donne-nous d'être ces hommes et ces femmes qui ne tremblent pas face aux épreuves et aux difficultés, mais qui font preuve de cette paix qui est dans leur cœur parce que Christ habite notre cœur. Seigneur, nous voulons te dire encore ce soir, donne-nous cette joie qui vient du ciel et quelles qu'ils soient les circonstances et les situations, Seigneur, que nous puissions être attentifs et nous puissions être aussi des instruments entre tes mains, être de ceux qui apportent la paix. Seigneur, donne-nous d'expérimenter encore cette année le secours qui vient de Dieu. Dans ce monde qui n'a pas de solution, Seigneur, dans ce monde qui ne sait plus comment faire, nous avons ce Seigneur et ce Dieu Tout-Puissant qui prend le temps de nous amener, Seigneur, là où nous pouvons prendre de la hauteur. Et ce soir, je voudrais te demander, Seigneur, aide-nous à prendre de la hauteur face à nos difficultés. Aide-nous, Seigneur, à nous asseoir à tes côtés et écouter ta parole, Seigneur, et à recevoir cette parole qui nous donne joie et qui transforme nos vies, Seigneur. Seigneur, toi, tu connais les circonstances qui touchent au cœur et à la vie de chacun de ceux qui sont là ce soir, mais aussi de ceux et celles qui écouteront ce message par le site internet. Et Seigneur, je veux te prier que là où ils sont, ils puissent, Seigneur, être touchés par toi. Là, Seigneur, où nous avons besoin d'être guéris, relevés, Seigneur, restaurés, que ta main vienne se poser, Seigneur, en ce moment même. Seigneur, donne-nous cette joie qui vient du ciel, Seigneur, et enlève de nous toute forme de tristesse, Seigneur, qui nous empêche en réalité de voir ta gloire dans notre vie. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ta bénédiction. Merci encore pour ta grâce. Père, nous te prions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.